Bonjour à tous. Bonjour à ceux à qui je n'avais pas encore dit bonjour. Juste rappeler que pour bon, ceux qui n'ont pas l'habitude, que j'ai la liste des références que je vais utiliser tout à l'heure pour cette prédication, pour que vous puissiez après revoir le texte chez vous et replacer les versets dans leur contexte et retravailler le texte vous-même. Le message que nous avons partagé la dernière fois parlait de la souffrance du disciple. Et nous avons lu un passage que j'aimerais relire ce matin, qui se trouve dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 2, les versets 20 et 21, où Pierre écrit en effet. Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et ce que nous avions dit, c'est que Christ est notre exemple. Il a souffert pour nous laisser un exemple. Il est en fait notre modèle et notre souffrance est à l'image de la sienne. Parce qu'il est notre modèle et en fait sa souffrance, je dirais son humiliation, en fait constitue le prix de notre salut. Et ça va être le message de ce matin, le prix de notre salut. Comment le Seigneur a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Et pour ce message, j'aimerais vous lire un passage dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 8, où nous sommes exhortés de cette façon, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc on va essayer de voir comment Jésus-Christ s'est humilié pour notre salut. Ce texte nous dit que il était égal avec Dieu, mais qu'il a finalement pris une forme de serviteur. Il a pris la forme d'un simple homme, qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. Et nous allons développer cette notion et approfondir ce texte. Nous allons traverser un peu les Écritures, voir un peu comment le Christ s'est humilié pour notre salut. On va voir qu'en fait, il a descendu des marches, plusieurs marches, de plus en plus dans l'humiliation jusqu'à la mort. Et la première marche qui peut nous paraître anodine, c'est le simple fait qu'il a quitté le ciel. Parce qu'en fait, en quittant le ciel, il a abandonné sa gloire. Il était dans une gloire que nous ne pouvons même pas imaginer. L'apôtre Jean a eu l'occasion de voir un peu, je vais y revenir après, ce que le témoignage de l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Mais Jésus parle lui-même de cette gloire qu'il a abandonnée dans l'évangile selon Jean, au chapitre 17. Au verset 15, il dit, quand il prie son Père, il dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » En fait, Jésus parle de cette gloire qu'il avait auprès de son Père, et il va l'abandonner. Ça va être la première marche de cette descente dans l'humiliation. Et la deuxième marche que nous pouvons prendre, c'est, enfin, l'image que nous pouvons prendre, c'est imaginer que Jésus aurait pu arriver sur la terre en abandonnant cette gloire, mais quand même arriver avec une certaine gloire. Arriver avec, monter sur un cheval blanc avec une armée qui le suivait, mais c'est pas ce qu'il a fait. Et justement, je voulais revenir à ce passage du livre de l'Apocalypse, au chapitre 19. Versets 11 et 14 où l'apôtre Jean témoigne de ce qu'il voit. Il dit « Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. » Ça c'est après. Jésus a fait cette révélation à Jean. Mais il n'est pas arrivé sur la terre comme ça. Il aurait pu le faire. Mais il a accepté de venir comme un simple homme pour sa mission. Ça a été cette deuxième marche qu'il descend, il vient, d'accord, mais il ne vient pas dans la gloire. Et la troisième marche dont on peut parler, c'est le fait qu'il est né d'une femme. Alors, certains pourraient dire, mais il ne pouvait pas naître d'un, homme. Non, non, c'est l'expression que l'apôtre Paul utilise dans la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Pourquoi il précise cela? C'est parce que Jésus aurait pu arriver comme un homme fait, de la trentaine. Voilà, et se présenter, faire sa mission dans cet état-là. Et pourtant, il va choisir de naître d'une femme, c'est-à-dire devenir un bébé, un nourrisson totalement dépendant de ses parents pour ses besoins, pour tout ce qu'il pouvait faire. Il était totalement fragile. Et il a choisi cela. Il a accepté cela. Au lieu d'arriver comme un homme fait, non, il a accepté de naître d'une femme, c'est-à-dire prendre la forme la plus vulnérable de l'être humain. Voilà, cette marche qu'il a accepté de descendre. Et il va descendre encore plus bas parce qu'il pouvait très bien naître dans une famille royale. Non, il a accepté de naître dans une famille de charpentiers. Voilà, et il continue comme ça à descendre. Et sa naissance même va nous montrer à quel point il accepte toujours de descendre toujours plus bas. Dans Luc chapitre 2, versets 6 et 7, on nous raconte un peu comment il est né, très rapidement. « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Alors vous imaginez qu'il y a une femme enceinte qui arrive, donc on ne pouvait pas ne pas savoir qu'elle était enceinte, elle était à terme. Et tout le monde avait trouvé de la place, mais elle, on lui dit, bah écoutez, il reste de la place avec les animaux dans les tables. Il n'y a pas de place pour vous, madame. Et Jésus accepte cela. Donc il va aller, il va naître parmi les animaux dans les tables, et on le couche dans la mangeoire, dans une crèche, là où les animaux mangent, là où les animaux bavent. C'est là-dedans qu'il va naître. Il accepte cela. Et il continue, on nous parle de d'une fuite en Égypte, pendant qu'il était encore petit. Matthieu chapitre 2, versets 13 et 14. Lorsqu'ils furent partis, donc il est question ici des mages qui sont venus rendre hommage à Jésus. Et quand ils partent, on nous dit, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Alors cet événement qui peut paraître aussi anodin, mais en fait ça nous montre que Jésus accepte de fuir devant Hérode. Alors Hérode c'est qui? C'est une créature de Jésus. Colossiens chapitre 1 verset 16 nous dit « Tout a été créé par lui et pour lui. » Il est le créateur de tout, il est le créateur d'Hérode. Et il accepte de fuir devant sa propre créature. Il s'humilie ainsi. Il accepte cela. Et ensuite, quand il va décider de résider quelque part, bon, on aurait pu imaginer qu'il choisisse la grande ville royale, Jérusalem, la ville de David. Maintenant, il va choisir une ville dont on dit ceci, Jean chapitre 1, verset 46, Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» C'est la ville que l'on dédaignait. Rien ne pouvait venir de bon de Nazareth. Mais Jésus dit, c'est là où il va résider. Il sera le Nazaréen. Il va vivre à Nazareth. Il descend encore dans sa marche d'humiliation. Et avant de commencer sa mission, il va passer par un baptême qu'on nous raconte dans Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée, ordonnant vers Jean pour être baptisé par lui. Ce que j'aimerais soulever ici, ce n'est pas le baptême en lui-même, mais c'est ce qui se passe. Vous imaginez donc Jean, qui est dans l'eau, qui est en train de baptiser les gens, il y a une file de personnes repentantes qui s'avancent vers lui pour se faire baptiser. Et Jésus se met dans cette file de personnes avançant honteusement, la tête baissée parce qu'ils reconnaissent leur péché. Et Jésus accepte de se mettre dans cette file-là. Voilà, c'est le Fils de Dieu qui accepte de faire ça. Et ce n'est pas fini. Là, maintenant, il est baptisé, il va commencer son ministère terrestre. Et aujourd'hui, on va dire que on va l'appeler un SDF, sans domicile fixe. Il a accepté de vivre une vie comme ça, où il dit lui-même dans Luc chapitre 9, verset 58, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont un nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Voilà la condition dans laquelle Jésus accepte de vivre, de lieu en lieu, comme un SDF, on dirait aujourd'hui. Et maintenant qu'il va, il va aller vraiment vers sa mission finale, il va monter à Jérusalem et là, il va prêcher, il va commencer vraiment son ministère public, vraiment, et il va aller à Jérusalem. Et dans Marc, chapitre 11, verset 7, on nous raconte quelque chose que vous connaissez déjà, où il est question d'un âne. Les disciples amenèrent à Jésus l'âneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. C'est-à-dire qu'en allant à Jérusalem, il n'a pas choisi un cheval victorieux, il choisit un âne. Toujours pour montrer son humilité, il accepte cela. Il descend toujours plus bas. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est que cet événement avait été prophétisé plus de 700 ans plus tôt par Zacharie. Zacharie, chapitre 9, verset 9, où il est dit ceci. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. » Sur un âne, le petit d'une ânesse. Voilà. Là aussi, ça nous montre un peu la grandeur de notre livre, la grandeur de la parole de Dieu, où les choses sont prédites bien avant et se réalisent. Et quand le moment arrive où Jésus va vraiment terminer sa mission, il est avec ses disciples, et à un moment donné, on nous raconte, dans Jean chapitre 13, verset 5, qu'il versa de l'eau dans un bassin et qu'il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Lui, le Seigneur, il se met à laver les pieds sales de ses disciples. C'est lui qui l'accepte de le faire. Il descend toujours comme ça dans l'humiliation. Tout ce qu'il fait, en fait, nous montre à quel point il descend dans l'humiliation. Donc il lave les pieds des apôtres, et va commencer maintenant ce qu'on appelle communément la passion, sa passion. Il va souffrir, il va continuer à payer le prix. Il a déjà commencé depuis le fait qu'il a... Il a quitté le ciel, il a déjà commencé à s'humilier, et là, il va connaître des moments forts que je vous invite à relire dans l'Évangile selon Matthieu, les chapitres 26 et 27. Moi, j'aimerais simplement reprendre quelques passages de ces deux chapitres où on va voir la souffrance que le Seigneur va connaître, l'humiliation qu'il va connaître, même la façon dont il a été arrêté. Chapitre 26, verset 55, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. » Il a été pris comme un brigand, un simple brigand, un vulgaire brigand. Il a accepté cela. Et il est traité comme ça, comme un brigand. Et ensuite, on va le battre. On va le frapper. Chapitre 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc il va être battu. Il va être frappé. Et non seulement cela, on va lui cracher dessus. On va lui donner des coups au visage. On va se moquer de lui. Chapitre 26, versets 67 et 68. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Voilà comment il était traité. On lui crache dessus. On lui donne des gifles, on le frappe au visage, on lui donne des coups. Vous pouvez imaginer à quel point son visage devait être tuméfié, à cause de ces coups qu'il prenait. Il devait, à mon avis, pas être vraiment reconnaissable après. Et on se moque de lui, mais pas simplement avec des mots. Chapitre 27, versets 28 à 31. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans sa main droite, puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Vous imaginez, en fait, on se moque de lui, on le prend pour un roi, voilà, et on s'agenouille devant lui, on lui met une couronne, voilà, mais d'épines. Mais ce qu'on constate, c'est que c'était une couronne d'épines, mais après, on frappe sur la couronne avec un roseau. C'est-à-dire que les épines rentraient dans la chair. Non seulement on a posé l'épine, mais on tape dessus. On tape sur les épines. Et il reçoit ça dans la terre. Voilà ce qu'il a subi, notre Seigneur. Et après cela, on va lui demander de porter sa croix. À l'époque, en fait, le condamné portait lui-même sa croix ou la barre transversale de la croix. Et Jésus a été tellement maltraité qu'il était fatigué, épuisé. On a dû faire appel à quelqu'un d'autre. Matthieu chapitre 27, verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus parce que Jésus n'en pouvait plus. Les autres condamnés arrivaient avec leur croix jusqu'au lieu, mais lui, il était tellement battu, tellement maltraité qu'il était épuisé. Il ne pouvait même plus porter sa croix. Et on va maintenant connaître le point fort, le crucifiement, qu'on appelle aussi la crucifixion. On va prendre des clous en fer forgé, qu'on va lui planter dans la chair, dans les poignets, dans les pieds. On tape sur les clous en fer forgé. Et non seulement on le traite comme ça, il est maintenant crucifié, il souffre sur la croix, mais on continue à se moquer de lui, à l'injurier. Matthieu 27, versets 39 à 43. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Voilà, il était en train de souffrir sur la croix, mais on continue à se moquer de lui. Alors on peut se poser une question quand on dit, « Sauve-toi toi-même. » Pensez-vous que Jésus aurait pu se sauver lui-même, comme disaient les passants? Pensez-vous qu'il pouvait descendre de la croix, à votre avis? Pouvait-il descendre de la croix? Effectivement, s'il n'y avait que les clous en fer forgé, il serait descendu de la croix. Il avait le pouvoir de le faire. Mais croyez-moi qu'il ne pouvait pas descendre de cette croix. Parce que derrière ces clous en fer forgé, il y en avait d'autres qui le retenaient, dont il ne pouvait absolument pas se défaire. J'ai écouté il y a très longtemps une prédication qui m'a inspiré ces clous. C'est qu'il y avait 3 autres clous qui le retenaient, dont vraiment il ne pouvait pas se défaire. Le premier de ces clous, c'est nos péchés. Et le prophète Ésaïe nous en parle déjà, plus de 700 ans plus tôt, dans Ésaïe 53, j'aimerais vous lire les versets 3 à 7. On parle de Jésus ainsi, maltraité et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Voilà, c'est nos péchés qui le retenaient à la croix. Avec ce clou-là, il ne pouvait absolument pas descendre de la croix. Mais il y en avait, il était question des péchés de tout le monde, de tous les temps, de toute l'humanité. Voilà le clou qui le retenait. Il y avait un deuxième clou qui le retenait à la croix, c'était son amour pour nous. C'était son amour. C'est pour cet amour qu'il a accepté l'humiliation, les outrages, la souffrance. Quel amour il avait pour nous. Il a aimé jusqu'à la mort, comme il disait lui-même, Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » les dimensions de l'amour de Jésus dépassent notre entendement, au point que l'apôtre Paul, lorsqu'il va essayer d'en parler dans Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19, je vous lis ce qu'il écrit, « Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Alors ici, si on ne fait pas attention, on lit rapidement le texte, mais en fait, Paul parle de l'amour de Jésus en quatre dimensions. Quand on décrit un objet, c'est en trois dimensions. Mais l'amour de Christ dépasse tellement notre entendement qu'il dit, il parle de la longueur, de la largeur, de la profondeur, de la hauteur. Si vous essayez de le faire, c'est pas possible. Il n'y a pas quatre dimensions, il y en a trois. Mais ça dépasse notre entendement. Cet amour est trop grand. Et Paul, essayant de le décrire, il le décrit en quatre dimensions. Il y avait un troisième clou qui le retenait à la croix. Et de ce clou-là, il ne pouvait pas se défaire non plus. C'était son obéissance à son Père. Jean chapitre 6, verset 38, Jésus dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il a été obéissant. Et le texte nous dit « obéissant, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » Et le texte précise « même jusqu'à la mort de la croix. » Ça, c'est encore une marche qu'il a descendue, parce qu'il pouvait mourir autrement. Mais il descend encore plus bas en choisissant la mort la plus infamante de l'époque, la mort de la croix. C'est pour ça qu'on le précise. Il est descendu si bas. Vous imaginez le prix de notre salut. Quand on parle de notre salut, que Jésus a payé le prix, si on prend le temps d'analyser les textes, on se rend à quel point il a payé le prix, à quel point il s'est humilié en tant que Seigneur. Oh, quelle humiliation! Le prix payé pour notre salut est si élevé. Et l'apôtre Pierre va nous en parler dans sa lettre, dans sa première lettre, au chapitre 1, versets 18 et 19. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Si nous prenons conscience du prix payé pour notre salut, nous ne pouvons plus continuer à vivre d'une vaine manière. On peut se demander pourquoi j'insiste autant sur le prix de notre salut. C'est parce qu'il faut le réaliser pour changer de vie. Si nous avons réalisé une telle souffrance, une telle humiliation de notre Seigneur, nous ne pouvons plus continuer à vivre dans la désobéissance au Seigneur, dans la rébellion ou dans le péché. Le prix payé pour notre salut est trop élevé. Honorons-le. Honorons ce prix. Il est trop élevé. Recherchons la sainteté. Soumettons-nous au Seigneur, obéissons à ses commandements, recherchons et poursuivons la sanctification, si nous prenons conscience de ce prix. Il est trop élevé. J'aimerais juste m'arrêter là-dessus, que chacun prenne conscience, que l'Esprit de notre Dieu touche nos cœurs et nous fasse réaliser le prix que notre Seigneur et Sauveur bien-aimé Jésus-Christ a payé pour notre salut. Amen.